Bonjour à toutes et à tous, habitués de cette chapelle ou visiteurs d'un jour, bienvenue pour cette célébration que nous voulons vivre dans la présence du Seigneur et sous l'inspiration du seul vrai Dieu révélé en son Fils Jésus-Christ. On n'est pas très très nombreux ce matin, parce que plusieurs événements sont concurrents. Le week-end, on peut dire un peu prolongé de l'Ascension, le voyage d'une délégation de la communauté en Italie, à Florence, pour visiter nos amis saillants, qui sont des missionnaires, et la rencontre Free Time, qui est une rencontre de jeunes adultes, qui se fait dans une autre communauté. Donc voilà, c'est un petit peu la dispersion. Mais soyons rassurés, le Seigneur est au milieu de groupes très petits, réduits à deux ou trois personnes même, selon la parole. Quand deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Et de plus, nous avons le plaisir d'accueillir ce matin une invitée de qualité. J'ai nommé Anne-Catherine Piguet, qui est sortie de nos rangs il y a quelques années pour étudier la théologie. Elle nous apportera le message de la part du Seigneur. Bienvenue Anne-Catherine. Merci également à l'équipe des musiciens qui vont agrémenter la célébration. Et aussi à ceux qui ont préparé la salle, qui ont préparé la scène, qui sont à la sonorisation. Avant de passer au temps de louange, je vais citer une petite curiosité de la parole que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5. C'est dans cette partie de la Bible qui est le sermon sur la montagne, l'enseignement, la théologie de Jésus, si l'on peut dire, et qui dit ceci. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grain, c'est-à-dire un pot. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Est-ce que nous sommes vraiment très à l'aise avec cette idée que les disciples de Jésus, dont nous faisons partie, on n'est pas les contemporains du Christ sur la terre, mais nous sommes de ses disciples comme chrétiens, alors sommes-nous à l'aise avec l'idée que nous sommes la lumière du monde ? Que Jésus le dise de lui-même, je le comprendrais, ce serait juste, car il est la lumière du monde, il est la lumière des nations. Mais nous, plein de défauts, pas toujours en état de faire du bien, d'éclairer les autres, comment est-ce possible? C'est possible par l'Esprit Saint qu'il nous a donné et qui est la vraie lumière du monde, qui veut continuer les œuvres que Jésus a accompli sur terre et même de plus grande, avec notre participation. Parce que si l'Église ne sert pas à manifester la présence de Dieu dans le monde, je ne vois pas à quoi elle sert. Réjouissons-nous donc d'être appelés à manifester chacun à notre niveau ce que Dieu a préparé pour notre temps. Alors je vous invite à la prière pour demander à Dieu de nous inspirer, d'éclairer nos cœurs. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre grâce tout d'abord de la liberté de pouvoir nous rassembler sans en être persécutés comme de nombreux de nos frères et sœurs dans ce monde. Nous voulons te prier de nous disposer notre cœur à saisir l'instruction que tu as prévue pour nous, et par ton esprit de nous rendre aptes à réaliser ces œuvres bonnes montrer cette lumière que tu es pour le monde et qu'au cours de cette célébration, ton esprit soit libre d'agir en nous. Amen. Voilà, je vais passer la parole au groupe de louanges pour un moment de célébration.
Bonjour tout le monde. Ça va? Ouais, comme dit Philippe, si l'Église n'est pas là pour manifester le Seigneur dans le monde, elle ne sert pas à grand-chose. C'est vrai. Et c'est vrai que le monde, ce n'est pas jojo. Mais pour nous, le Seigneur a tout changé. Et puis même si dans ma vie, il y a des hauts et des bas, comme dit toujours beau papa, l'important, c'est les promesses qu'on trouve dans la Bible. L'important, c'est que j'ai donné mon cœur au Seigneur Jésus et puis qu'il prend soin de moi. Et puis que ça change tout radicalement tous les jours. Et puis le premier chant qu'on va chanter ensemble, je vous invite à vous lever. Il ne parle pas du bonheur qu'on a dans le monde, mais du bonheur qu'on a reçu dans le cœur, qui est notre cadeau de chaque jour. Et pour que on soit sûr que c'est un chant qui soit bien connu par Santosh Iti et par mon frère Yvan qui est en visite ce matin, j'ai pris quelque chose dans le Gem 1. Allez. Seigneur Jésus, je veux dire merci parce que depuis que je te chantais ça à l'école du dimanche, à la rue Calvin, à l'église méthodiste, quand j'étais tout petit, tu n'as pas changé. Et puis tu m'as appelé à toi, tu m'as donné la main, tu m'as rencontré, puis tu m'accompagnes tous les jours. Et puis je me souviens de ta fidélité, et puis je me souviens que ce bonheur que tu as mis dans mon cœur, tout petit, mais il est encore là aujourd'hui, puis il sera là jusqu'à la fin de mes jours. Puis je veux te dire, Seigneur Jésus, que je me réjouis de le partager là-haut avec toi. Ça va être fantastique. Béni soit ton nom.
Ton amour est un roc solide sous mes pieds.
Merci, vous pouvez reprendre place.
Alors, Apocalypse 1, versets 1 à 3. Révélation de Jésus-Christ. Dieu la lui a donnée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et l'a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean. Celui-ci l'a attesté, tout ce qu'il a vu est la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et garde ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. Apocalypse 8, 2 à 13. Puis je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu. Sept trompettes leur furent données. Un autre ange vint. Il se plaça vers l'autel, tenant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta de la main de l'ange devant Dieu avec les prières des saints. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut alors des coups de tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Puis les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette et de la grêle et du feu mêlé de sang s'abattirent sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé et toute herbe verte fut brûlée. Le deuxième ange sonna de la trompette et quelque chose qui ressemblait à une grande montagne embrasée par le feu fut précipité dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang, le tiers des créatures qui vivaient dans la mer mourut et le tiers des bateaux fut détruit. Le troisième ange sonna de la trompette et du ciel tomba une grande étoile qui brûlait comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Le nom de cette étoile est Absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent à cause de ces eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, de sorte qu'ils s'obscurcirent d'un tiers. Le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardais, et j'entendis un aigle qui volait très haut dans le ciel, et qui disait d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sonneries de trompettes, celles que les trois anges vont encore faire retentir. »
Alors, bonjour à chacun, ça me fait toujours très plaisir de me retrouver dans cette communauté où j'ai passé toute mon enfance. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie. Voilà comment commence l'Apocalypse. Pourtant, eh bien, il faut l'avouer, on lit rarement ce livre avec joie, mais plutôt avec une certaine peur de la fin du monde. Or, Apocalypsis en grec signifie révélation, dévoilement. Alors c'est vrai, ce livre nous parle de malheur. Il nous entraîne au-delà de la réalité visible, dans la réalité spirituelle, où se déroule une guerre terrible. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ a déjà obtenu la victoire. Alors, on va d'abord s'intéresser un petit peu à la structure du livre parce qu'elle nous montre combien Dieu maîtrise. Et si je peux te demander de mettre le premier diapo. Ah, il est déjà là, c'est magnifique. Donc, vous voyez au début et à la fin, Jésus qui proclame « Je suis l'alpha et l'oméga ». Et puis, avec cette parole qui revient au début et à la fin, « Heureux celui ou ceux qui lisent et qui écoutent la parole de Dieu, les paroles de la prophétie ». Donc Jésus est l'alpha et l'oméga, il est l'origine et la finalité de toute l'histoire humaine. Et puis entre deux, eh bien, l'apôtre Jean lève un coin du voile sur cette fameuse guerre spirituelle en sept visions avant de décrire la victoire finale dans la Nouvelle Jérusalem. Alors vous avez la première vision qui nous montre Jésus au milieu des sept églises. Évidemment, les sept églises symbolisent l'église universelle de tous les temps et de tous les lieux. Et Jésus parle à ces sept églises avec sept lettres. On voit que Jésus ne laisse pas son peuple errer, il nous parle. Encore aujourd'hui, par son esprit, il est présent au milieu de nous. Il nous encourage à le suivre et à l'aimer afin de nous préparer à sa venue. Ensuite, Jean est entraîné au ciel. Où il voit la réalité spirituelle, ça devait être magnifique, hein, et il est devant le trône de Dieu. Et il voit que rien de ce qui se passe sur la terre n'échappe au Seigneur, puisque c'est depuis la résidence de Dieu que les ordres sont donnés pour mener cette guerre spirituelle. C'est ce qui se passe dans les visions 2 à 5. On voit que les ordres sont donnés depuis le trône de Dieu, depuis l'autel, depuis le temple de Dieu, et ce temple est ouvert, évidemment, parce que depuis la mort de Jésus, eh bien, le voile qui fermait l'accès au lieu très saint a été déchiré. Et puis après, il y a encore la sixième vision qui nous montre une foule de rachetés qui s'approche du trône de l'agneau. C'est ce que le prophète Ésaïe avait déjà vu. Et puis la dernière vision, eh bien, c'est un peu particulier parce que elle est démultipliée en sept. Ça montre vraiment la surabondante perfection de Dieu qui tient toute l'histoire humaine entre ses mains. Et puis là, on y voit le combat final contre le diable, la victoire de Dieu et le jugement dernier. Et puis surgissent du ciel une terre renouvelée, un ciel renouvelé avec la nouvelle Jérusalem, l'épouse du Christ. Tel est notre bel avenir, donc il y a de quoi être heureux, oui. Et d'ailleurs, à 7 reprises dans l'Apocalypse, il est question de heureux, heureux ceux qui écoutent les paroles, heureux ceux qui lavent leurs robes, etc. Vous pouvez retrouver ça facilement. Soyons donc heureux. Pourtant, eh bien, l'apôtre Jean n'est pas naïf. Il voit aussi qu'il y a un autre qui vient singer Dieu pour faire du mal aux humains. Si tu peux passer le deuxième dia, je vous ai remis le plan de l'Apocalypse, mais au milieu, je vous ai montré d'abord ce grand dragon rouge qui est horrible, qui a 7 têtes couronnées pour tromper les êtres humains et leur faire croire qu'ils gouvernent à la perfection comme Dieu. Mais on le voit bien, il s'agit du diable qui a été vaincu par Jésus-Christ, qui a été précipité sur la terre où il se déchaîne parce qu'il sait qu'il a peu de temps qui lui reste. Et donc, il singe Dieu le Père en étant le Père, mais du mensonge. Et puis après, vous avez une bête qui vient de la mer, qui est tout aussi horrible et qui, elle, singe le Fils de Dieu. Ses têtes sont recouvertes de noms de blasphème. Elle ressemble à un léopard avec des pattes d'ours et une gueule de lion. Probablement que ça montre qu'elle surgit sur sa proie à la vitesse du léopard pour déchirer avec ses pattes d'ours et pour dévorer dans sa gueule de lion. Nous sommes donc avertis. Tant que la guerre spirituelle n'est pas achevée, eh bien, le diable reste dangereux et nous devons lui résister avec les armes de l'Esprit de Dieu, bien sûr. Il n'est pas question d'être violent, mais de vraiment acquérir ces armes de l'Esprit de Dieu. Et puis le diable, on le voit, il est divisé contre lui-même. Il y a 7 têtes qui gouvernent, mais 10 cornes, qui sont des symboles de puissance et de pouvoir, 10 cornes qui poussent sur lui. Et puis vous avez une 3e bête, la bête qui monte de la terre, qui est tout aussi hideuse et hybride. Elle ressemble à un agneau, mais elle parle comme un dragon. Elle fait des prodiges, elle singe l'Esprit de Dieu pour épater la galerie, pour tromper les êtres humains. Alors voilà, dans cette guerre spirituelle que je vous ai résumée en quelques mots, eh bien, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment tenir bon face aux attaques, aux assauts répétés de l'ennemi? Eh bien, l'apôtre Jean écrit précisément pour nous encourager à résister parce que les temps sont difficiles. Mais malheureusement, souvent, on ne retient de l'Apocalypse que les malheurs. Et on oublie que chaque vision, comme on l'a vu, chaque vision est initiée depuis, à partir de Jésus-Christ ressuscité, et puis ensuite depuis le temple de Dieu, depuis l'autel, depuis le trône, etc. Donc on voit que Jésus règne. Il est le début et la fin de toute l'histoire. Et c'est pourquoi on peut se réjouir de l'Apocalypse, parce que Jean prophétise qu'un jour, eh bien, Dieu jugera, Dieu règne, il jugera, et puis il rétablira le bien, il punira le mal et rétablira le bien. Et ces visions, il faut les prendre comme des sortes de tableaux, des sortes d'œuvres d'art qui parlent à nos sens. Et visuellement, c'est vraiment très fort, hein. On voit le merveilleux trône de Dieu, mais on voit aussi d'horribles cataclysmes qui se déroulent sur la terre avec des chevaux à tête de lion, à queue de scorpion et j'en passe. Et puis nos sens, notre ouïe aussi est mise en éveil avec des voix, des tonnerres, des sons, mais aussi un silence d'une demi-heure dans le ciel qui nous fait forte impression. Et puis il y a aussi des odeurs. Le soufre qui sort de l'abîme, mais aussi d'agréables parfums, comme il nous a été lu tout à l'heure, d'agréables parfums qui sont répandus sur l'autel devant Dieu. Et puis Jean doit lui encore goûter à un petit livre qui est doux dans sa bouche, mais amer dans son ventre. Alors on le voit, l'Apocalypse aiguise tous nos sens pour nous faire saisir un peu de cette réalité spirituelle qui dépasse notre entendement, hein, il faut le reconnaître. Et l'Apocalypse est aussi pleine de contrastes parce que, eh bien, il y a des bonnes et des mauvaises odeurs, il y a des choses belles qu'on voit et des choses moches, et c'est notre situation jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Alors dans sa bonté, eh bien, Dieu nous fait goûter à cette réalité spirituelle pour nous fortifier dans notre foi, c'est pas pour nous faire peur. Et souvent, on comprend mal l'Apocalypse parce que, Elle est truffée d'allusions à l'Ancien Testament et on connaît mal l'Ancien Testament. Alors voilà, après cette introduction, eh bien, je vous propose de nous arrêter sur la troisième vision dès le chapitre 8 et on en a lu que le début parce qu'il aurait été trop long de lire jusqu'au chapitre 11. Et on voit donc l'apôtre Jean qui reçoit qui voit des anges qui eux reçoivent des trompettes. Et puis tout d'un coup un autre ange qui est là, qui se tient devant l'autel des parfums. Voilà une première allusion à l'Ancien Testament, bien sûr. L'autel des parfums se trouvait dans le tabernacle, c'est-à-dire la tente de la rencontre avec Dieu, puis plus tard dans le temple. Et je fais un troisième diapo, si tu peux le mettre, merci, où on voit ce tabernacle. Et en fait, il ne faut pas confondre, il y a deux autels. Il y a l'autel des sacrifices qui était dans la cour et celui des parfums qui est dans le lieu saint. L'autel des sacrifices était en bois recouvert de bronze et dans la cour donc. Et puis l'autel des parfums, lui, se trouvait dans le lieu saint. Donc il était aussi en bois, mais recouvert d'or pur. Il était donc destiné à un usage pur, juste devant le voile qui mène au lieu très saint où était la présence de Dieu, la Shekhinah. Et dans ce lieu saint, où il y a l'autel des parfums, seuls les prêtres, fils d'Aaron, avaient le droit d'y accéder pour offrir matin et soir des parfums à l'Éternel. Donc la vision de l'apôtre Jean, le début du chapitre 8, se passe dans le lieu saint. Et juste avant, au chapitre 5, on apprend qu'en fait, les parfums, ça représente les prières des croyants. Et évidemment, des croyants de tous les temps. Mais il y a un premier problème, parce que dans l'Ancien Testament, les croyants n'accédaient pas au lieu saint pour offrir les parfums. Donc, une première chose, c'est que cette vision confirme la réalité de la nouvelle alliance, à savoir que les croyants, qu'ils soient d'origine israélite ou païenne, peu importe, mais ceux qui croient en Jésus-Christ sont devenus un peuple de prêtres, des prêtres saints, qui ont pour tâche d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ, comme nous le dit aussi l'apôtre Pierre. Donc cette vision, cette première vision devant l'autel des parfums est vraiment un super encouragement à prier parce que nos prières sont comme des parfums devant Dieu qui remplissent son lieu saint d'une agréable odeur. Puis alors il nous est dit qu'il y a les prières, enfin, ces parfums, et puis qu'il y a une grande quantité de parfums qui sont ajoutés à ces premiers parfums. Alors, d'où viennent-ils? Eh bien, tout simplement, il s'agit des prières de notre grand prêtre, Jésus-Christ, qui intercède pour nous devant le Père. Depuis sa mort sur la croix, eh bien, comme je l'ai dit, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été déchiré. Ainsi, nos prières, ajoutées à celles de notre grand prêtre, Jésus-Christ, montent directement dans la présence de Dieu, sur l'arche de l'Alliance qui symbolisait le trône de Dieu. Ces parfums réjouissent le cœur du Père. C'est vraiment magnifique comme vision. Et à l'époque, eh bien, le parfum était composé de divers ingrédients. Il y avait notamment de l'encens. Et puis ces divers ingrédients étaient réduits en poudre. Et il fallait les brûler cette poudre pour que le parfum se répande dans le lieu saint. Et là, tout d'un coup, on voit un ange qui prend de ce feu et qui le jette sur la terre. Il y a donc un lien direct, un peu mystérieux, hein, faut l'avouer, mais un lien direct entre nos prières ajoutées à celles de Jésus-Christ et ce qui se passe sur la terre. Nos prières sont utiles devant Dieu. 8, verset 5, il y eut alors des coups de tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Encore une fois, on le voit, hein, nos sens sont aiguisés par ces visions. Et ces coups de tonnerre, ces voix, ces éclairs, tout ça, ça rappelle évidemment les théophanies, les démonstrations de la présence de Dieu qui ont eu lieu dans l'Ancien Testament. Il y en a plusieurs. Pensez par exemple à Moïse qui voit un feu, un buisson de feu, ou bien Élie qui a essuyé un vent violent, un tremblement de terre et du feu avant d'entendre Dieu lui parler dans un murmure doux et léger. Et ce qui est frappant dans l'Ancien Testament, c'est que chaque fois qu'il y a une telle puissance de Dieu qui est manifestée, eh bien, les croyants sont toujours effrayés. Parce que les croyants se rendent compte qu'ils risquent la mort devant la sainteté et la majesté et la puissance de Dieu. Oui, ils risquent la mort, à moins que Dieu, dans sa bonté, les protège et décide de faire grâce, puis de parler aux croyants avec tendresse. C'est ce que Élie a vécu au creux du rocher, par exemple. Eh bien, l'apôtre Jean, là, est aussi témoin d'une de ces théophanies, de ces manifestations de la présence de Dieu, qui l'effraie et qui saisit tous ses sens. Et puis, voilà que les sept anges qui avaient reçu des trompettes, se préparent maintenant à en sonner. Et si tu peux passer le diapo suivant, je vous ai fait un résumé des sept trompettes, donc dans les chapitres 8 à 11, et on n'en a lu évidemment que le début. Et il y a toutes sortes de cataclysmes qui se produisent chaque fois qu'une trompette retentit. Alors, là encore, les trompettes, ça fait allusion à l'Ancien Testament. Les trompettes ont retenti la première fois pour la première fois lorsque Dieu lui-même est descendu pour parler à Moïse sur le mont Sinaï. Le peuple fut épouvanté de cette manifestation de Dieu. On retrouve encore une fois ces manifestations de Dieu qui saisissent les croyants. Ensuite, les trompettes ont été utilisées pour convoquer, rassembler le peuple chaque fois qu'il y avait des événements importants. Mais les sept trompettes rappellent évidemment et surtout la conquête de Jéricho. Parce que Dieu, vous vous rappelez de cette histoire, Dieu avait ordonné que 6 jours d'affilée, les Israélites fassent le tour de la ville. Et Dieu avait dit ceci, 7 prêtres porteront 7 trompettes retentissantes devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les prêtres sonneront de la trompette. Quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris, alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera à l'attaque. C'est donc dans le livre de Josué au chapitre 6. En temps de guerre, on le voit, les trompettes annonçaient d'avance la victoire du Seigneur, tout en effrayant l'ennemi, bien sûr. Et par la suite, on a utilisé les trompettes pour louer ce Dieu victorieux dans les batailles. Et c'est pourquoi on retrouve les trompettes dans les psaumes, par exemple. Les trompettes étaient aussi utilisées par les sentinelles pour avertir du danger et pour que le peuple se prépare au combat quand il y avait une menace. Et le prophète Ézéchiel a aussi reçu cette mission d'être une sentinelle, mais une sentinelle spirituelle, on va dire, dans cette guerre spirituelle cette fois. Et Ézéchiel devait écouter le Seigneur et avertir le peuple, et spécialement les méchants, c'est-à-dire sonner de la trompette spirituelle, pour encourager ces gens qui pratiquaient le mal à se tourner vers Dieu et à faire le bien. Voilà, ces diverses utilisations des trompettes se retrouvent dans notre vision. Quand les anges sonnent, ils nous avertissent, tels des sentinelles, que la guerre spirituelle est déclarée. Il ne faut pas faire les malins, la guerre est là. Et comme dans l'Ancien Testament, ces trompettes sonnent pour que le peuple de Dieu se rassemble, soit uni et combatte en rang serré. Les trompettes retentissent aussi pour effrayer l'ennemi au passage et pour proclamer que le Seigneur a déjà remporté la guerre spirituelle. Alors la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est dans quel camp sommes-nous ou voulons-nous être ? Sommes-nous dans les rangs de l'armée de Dieu revêtue des armes de son esprit, prêts à combattre sans se laisser tromper par l'ennemi ? Avons-nous décidé fermement de suivre le Seigneur et de faire le bien, de pratiquer le bien, d'être des lumières dans ce monde, comme il nous a été rappelé au début de ce culte. La guerre spirituelle est terrible, c'est vrai. On en voit tous les jours des effets, des cataclysmes, des malheurs en tout genre, des maladies, et puis la mort, et des guerres, etc. Mais n'ayons pas peur. Le Seigneur est là, à nos côtés, et il a déjà obtenu la victoire. De plus, la 7e trompette nous rassure et nous assure aussi qu'un jour Dieu jugera. On n'a pas lu ce texte, mais relisez-le à la maison, ça vaut la peine. Cette septième trompette nous assure qu'un jour Dieu jugera. Et pour ceux qui auront été fidèles au Seigneur, eh bien ce sera un jour de joie. Car Dieu punira et vengera tout le mal. Alors, c'est sûr, hein, ce n'est pas à la mode de parler du jugement. Dans notre société occidentale du XXIe siècle, c'est vraiment... Personne ne parle du jugement. Mais quand on voit, par exemple, ce qui se passe en Syrie, eh bien, moi, j'avoue que ma seule consolation, c'est cette certitude qu'un jour, Dieu punira les coupables et qu'il fera justice. Parce que c'est inadmissible de couper la tête des gens, de violer des femmes, de martyriser des enfants, de détruire des familles entières, un peuple entier. C'est inadmissible. Et il y a de la colère quand on voit tout ça. Tout le mal. Et cette colère, eh bien, je ne peux que la porter au Seigneur en attendant qu'un jour il fasse justice, qu'un jour il y ait un jugement. Si moi je garde cette colère, évidemment, je suis rongée de l'intérieur. Mais en recevant, en donnant ma colère au Seigneur, eh bien, je peux recevoir sa paix et continuer de chercher le bien, de poursuivre le bien et la justice de Dieu. Alors oui, le jugement sera un jour de joie parce que Dieu rétablira la justice et il récompensera ses fidèles serviteurs, ceux qui auront continué à faire le bien malgré toutes les circonstances adverses qu'on peut rencontrer dans ce monde. Alors plusieurs des trompettes rappellent les plaies d'Égypte, encore une autre histoire de l'Ancien Testament, ou bien divers malheurs racontés par les prophètes, notamment le prophète Joël qui annonce le malheur des sauterelles. Il y a plein d'histoires que ça rappelle dans l'Ancien Testament. Parce qu'au fond, ce même schéma de cataclysme et de malheur se répète tout au long de l'histoire, ce n'est pas nouveau. Et je crois que Dieu permet ces fléaux, on voit ces fléaux qui sont ordonnés depuis le trône de Dieu, c'est que Dieu permet ces fléaux pour punir le mal, mais il les utilise aussi, ces fléaux, pour purifier son peuple, pour le délivrer de l'esclavage du péché. Pensez aux Israélites qui sont sortis d'Égypte, de cet esclavage de l'Égypte, pour les retirer du pharaon Satan, parce que Pharaon est une image de Satan. Nous subissons donc aussi en partie ces malheurs, les malheurs de ce monde. Et on le voit dans les plaies d'Égypte, les trois premières plaies avaient aussi atteint les Israélites. Mais ensuite, Dieu a épargné son peuple, c'est intéressant. Et il en va de même dans notre vision, si je peux te demander le dernier diapo. Vous voyez les quatre premières plaies qui atteignent toute la terre sans distinction. Par contre, les croyants sont épargnés de certains fléaux des trois dernières plaies. C'est ce que j'ai mis en rouge. Oui, ça se voit en rouge. Et on voit aussi que chaque fois que les fléaux s'abattent sans distinction sur toute la création, eh bien, il y a un tiers seulement qui est concerné. Clairement, Dieu met un frein à sa colère. Il a de quoi être en colère par rapport à tout le mal qui se passe. Et s'il avait laissé exploser sa colère, il n'y aurait plus d'humanité, il n'y aurait plus rien. Depuis Adam et Ève, il n'y aurait plus rien. Mais non, Dieu met un frein à sa colère. Il limite les dégâts à cause de son peuple, parce qu'il désire faire grâce et il désire que notre foi ne défaille pas. Mais c'est sûr, il faut l'avouer, que dans ce tiers qui subit les fléaux, eh bien, il y a aussi beaucoup de croyants qui sont atteints. Et nous sommes tous atteints par toutes sortes de maux et de malheurs. Ces six premières trompettes ressemblent à une sorte de décréation ou d'anticréation en six jours. Avant le septième jour ou la septième trompette de l'Éternel, c'est-à-dire le jugement, puis le repos des croyants dans la nouvelle création. Ça nous fait penser à la création au début, ces six jours de création, ça nous est raconté de façon poétique. Eh bien là, c'est l'inverse, c'est une décréation avant une septième trompette, un maxi sabbat, j'ai envie de dire, un repos éternel. Voilà, alors il est temps de conclure. Aujourd'hui, eh bien, nous sommes, c'est vrai, confrontés à des malheurs, à des épreuves de toutes sortes. Et ben, ça nous permet d'être solidaires avec tous les êtres humains qui sont aussi éprouvés de toutes sortes de manières. Et ça nous permet aussi d'être témoins de notre espérance en Jésus-Christ, malgré les malheurs de ce monde, de continuer d'être des témoins, d'être des lumières dans ce monde. Mais avouons-le, eh bien, parfois les malheurs sont si violents que nous sommes accablés et dépités. Alors, rappelons-nous de l'Apocalypse, cette révélation de Jésus-Christ, Jésus-Christ qui désire se faire connaître à nous toujours plus. Et ce livre nous apprend que, oui, derrière les malheurs de ce monde se cache une réalité spirituelle, bien réelle, mais invisible à nos yeux. Et cette réalité spirituelle, c'est que Jésus-Christ a déjà gagné la guerre. Ce que nous voyons aujourd'hui ne sont que des poches de résistance qui vont tomber. Alors, ne nous décourageons pas et soyons remplis d'espérance. Jésus-Christ revient bientôt. Amen.
Victoire.
Merci à Anne-Catherine pour ce magnifique rappel du fait que malgré les apparences, Dieu règne, Dieu contrôle ce qui se passe. Et la victoire du Christ est assurée et nous permet de nous réjouir. Et pour nous préparer à célébrer ce repas du Seigneur, nous nous pencherons sur un passage de l'Épître aux Hébreux qui dit ceci: Jésus-Christ entrant dans le monde, il dit à Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il abolit ainsi le premier régime des sacrifices et des offrandes pour le salut, pour établir le second régime du salut par la foi en son nom. C'est en vertu de cette volonté, poursuit le texte, que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Voilà en substance ce qu'il convient de croire et ce que nous proclamons lorsque nous prenons la scène. Et Corinne va nous lire l'institution du repas du Seigneur selon l'apôtre Paul.
En effet, voici ce que moi j'ai reçu du Seigneur et ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Il fit de même pour la coupe après le repas en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites cela toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement se rendra coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun s'éprouve soi-même avant de manger ce pain et de boire cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps mange et boit sa propre condamnation.
Nous allons prier. Seigneur, que par ton esprit nous puissions discerner dans ce pain, dans ce vin, les réalités spirituelles qu'il représente. Nous croyons que tu as pris sur toi le châtiment de notre péché, le châtiment qui nous était destiné. Nous t'en rendons grâce et nous voulons désormais vivre avec la conscience purifiée de tout mérite, autre que les tiens pour notre salut. Et ceci jusqu'à ton retour. Amen.
Amen.
Je demanderai à peut-être deux personnes du groupe des musiciens de nous aider. Nous allons distribuer le pain et le vin. Les coupes du milieu des plateaux sont du jus de raisin, celles de l'extérieur sont du vin. Ceux qui veulent la coupe pourront nous faire signe, nous la porterons. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous avons eu ce privilège de participer à ces signes du pain et du vin, signe de ton corps et de ton sang, signe aussi de la communion, de la vie partagée avec toi et entre nous. Nous te remercions de ce grand privilège et de ce qu'il représente. Nous voulons penser à ceux qui en sont privés parce qu'ils sont menacés, qui doivent se réunir, comme l'a rappelé Anne-Catherine, sous la guerre, les persécutions, les dangers. Nous te prions pour ces personnes traquées à cause de la foi en ton nom et pour les autres aussi. Nous voulons penser à ceux qui vivent de mauvais jours parce qu'ils sont réfugiés, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont âgés et ne peuvent plus fréquenter d'assemblée. Nous voulons te prier aussi pour nos envoyés. Nous pensons à cette équipe qui sont partis en Toscane, près de Florence, pour visiter la famille Saillant. Nous voulons te remettre toute cette équipe et la famille Saillant en particulier qui témoigne auprès de familles souffrantes, familles défavorisées. Et nous voulons te demander de bénir leur ministère, de bénir leur projet. Te prions pour que cette visite de cette délégation qui sont auprès d'eux puisse être une bénédiction de ta part pour eux. Nous voulons aussi prier pour les jeunes adultes qui vivent ce temps de free time, que tu les bénisses, que tu les fortifies aussi par ce temps, que tu fortifies leur foi. Et nous voulons t'adresser aussi cette prière que tu nous as toi-même enseignée, et nous la prononcerons tous ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vais maintenant vous citer un verset qui semble en complète contradiction avec celui que j'ai lu en introduction. Vous vous souvenez, celui qui dit que la lumière doit être posée sur un support éclairé et que Dieu doit voir les bonnes œuvres que nous pouvons accomplir pour que Dieu en soit glorifié. Alors maintenant, je vais vous lire un mystérieux verset qui semble dire tout le contraire. Prenez garde de ne pas accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu, sinon vous n'aurez pas de récompense de votre Père céleste. Ainsi, lorsque tu donnes quelque chose aux pauvres, ne le claironne pas partout. Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi dans les synagogues et dans les rues pour que les autres chantent leurs louanges. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Quant à toi, si tu veux donner quelque chose aux pauvres, et par extension à l'Église, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, que ton aumône se fasse ainsi en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Alors, vous voyez, ça paraît être contradictoire avec ces œuvres à mettre en évidence. Mais en l'occurrence ici, il s'agit de donner, si nous voulons faire une offrande, parce que c'est le temps de l'offrande, eh bien, ne faisons pas de calcul. Donnons exceptionnellement priorité aux sentiments qui sont dans notre cœur, sur notre raison qui a tendance à calculer. Et donc, donnons dans la liberté, sans calcul ni regret. Le seul critère, le seul raisonnement qu'il faut tenir, eh bien, c'est que nous sommes censés donner selon ce qu'on a et non selon ce qu'on n'a pas. Voilà la seule règle pour participer à l'offrande. Et nous allons donc recueillir des offrandes volontaires et non obligatoires en chantant un cantique pendant ce recueil. Prions. Seigneur notre Dieu, merci de nous avoir permis de consacrer une part des biens que tu nous as donnés pour ton service. Nous sommes gérants de tes bénédictions et nous voulons te demander de bénir le travail qui sera fait grâce à ces offrandes, l'aide qui sera apportée, le soulagement peut-être, et nous te bénissons parce que tu peux multiplier l'effet d'un petit geste et tu peux faire de grandes choses avec peu. Amen. Nous allons passer maintenant au temps d'annonces, s'il y a des annonces.
Oui, il y a les annonces du 8 mai, c'est aujourd'hui. Vous savez, le 8 mai, en Suisse romande, c'est le jour de la fête des mères. Et comme disait l'autre, si maman n'avait pas existé, je ne sais pas ce que je serais devenu. Alors, bonne fête à toutes les mamans. Dimanche 12 juin, le repas africain en marche du culte d'au revoir à la famille Ouketti, il y a une feuille d'inscription à la sortie à gauche sur le stander. Voilà, il y a un cours de préparation au baptême, vous voyez, ça fait une vague, le lancement du cours, Alors, si vous désirez vous faire baptiser, si vous êtes simplement intrigué, intéressé par ce que signifie le baptême, vous pouvez prendre contact avec notre pasteur Roger Sowell. Vendredi 13 mai, c'est Ethnopolis. Les enfants découvrent la vie associative à Mérin et il y aura un stand ici à l'EM. C'est Denise qui s'en occupe. Tu veux nous... Et quel est le thème que vous... Voilà, c'est sur le thème de la traduction de la Bible avec Sylvain Dupertuis.
Et puis s'il y en a qui... Bon, si... Ouais. Si vous avez des Bibles, si vous parlez une autre langue que le français, c'est... si vous pouviez nous prêter une de vos Bibles pour ce jour-là, ce serait vraiment sympathique. Les enfants apprécient énormément quand ils arrivent, ils disent « Oh, c'est dans ma langue !» Alors, c'est une bonne façon de les accueillir. Et puis, j'ai fait une bourde organisationnelle. Je croyais que j'étais disponible vendredi après-midi aussi, mais ce n'est pas le cas. Donc, si quelqu'un pouvait me remplacer de 1h moins quart à 3h, ce serait vraiment très sympathique. Merci.
Voilà, à la sortie du culte, le conseil, une délégation du conseil, est à disposition pour répondre à vos questions concernant le prochain engagement projeté qui sera soumis au colloque du 3 juin, l'engagement d'un pasteur à mi-temps, la personne de Claude Bécher. Donc, si vous avez des questions ou des remarques, Myriam et moi sommes à votre disposition. Mardi 14 juin, c'est la course annuelle du fil d'argent. On espère qu'il n'y aura pas trop de chiens. L'itinéraire sera adapté, donc ça ira de toute manière. Et les informations suivront. Ce mardi, dans le cadre des rencontres qui ont lieu à l'Ola de l'École des Boudines pour le 40e du CEPOM, ce mardi, le thème, c'est « Être musulman aujourd'hui » avec trois personnes qui décriront, expliqueront ce que ça signifie. Voilà, on a fait le tour des différentes informations. Juste encore une information à propos de Jean-Daniel Staudenmann. Jean-Daniel Staudenmann, qui était en convalescence à la clinique de Jolimont, il sortira, malgré que sa santé soit encore fragile, sortira ce jeudi pour retourner à la maison. Il a demandé que ce soit annoncé. Je pense qu'il est aussi sensible à vos visites et à vos prières. Merci.
Le septième ange sonna de la trompette et des voix fortes retentirent dans le ciel. Elle disait « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie et il règnera au siècle des siècles. » Alors c'est vrai, les temps sont difficiles, mais Jésus vient bientôt et dans cette attente que le Seigneur vous fortifie dans la foi et qu'il vous bénisse, qu'il vous remplisse de sa paix pour être des lumières dans ce monde. Allez dans la paix du Seigneur. Amen.